êtes ici tous chez vous, surtout en ce dimanche où nous prenons ce temps de nous réunir tous ensemble, après une semaine passée séparée, on va dire. Et d'autant plus, c'est un plaisir de se retrouver en ce dimanche assez spécial pour nous en tant que chrétiens, puisque effectivement nous fêtons aussi la Pentecôte. Pour nous, cela a beaucoup d'importance, ce fameux dimanche, ce fameux jour, il y a quelques siècles, alors que notre Seigneur est monté vers le ciel, il nous avait fait une promesse. Cette promesse, c'est de nous laisser son Saint-Esprit. Ce gage, en fait, finalement, qu'il serait toujours constamment avec nous, n'est-ce pas ? Un événement se produisit, en fait, ce fameux jour, et nous pouvons le lire dans le livre des Actes, en acte 2. Ce passage, il est assez riche, ce chapitre, hein, n'est-ce pas ? Et de toute façon, le livre des Actes, nous le voyons ensemble, il est assez riche. Mais en acte 2, il dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Au verset 4. Et puis, plus tard dans le texte, on voit bien qu'il y avait d'autres nations qui étaient présentes, avec des juifs, des prêtres, des personnes qui passaient par là aussi. Et en entendant ce bruit, ils ont accouru, en fait, vers cette maison. Et puis finalement, ils entendirent les disciples du Seigneur parler leur langue, sachant qu'ils ne les connaissaient pas. Et l'Esprit de Dieu vraiment s'est manifesté. Et moi, ce matin, je voudrais quand même, à travers ce moment de louange, que vous puissiez affectionner aussi le fait de pouvoir louer le Seigneur et l'adorer ensemble, dans l'assemblée, dans son assemblée. On a vu que le Saint-Esprit aussi s'est manifesté alors qu'ils étaient ensemble. Ce n'était pas chacun de leur côté, mais ils étaient tous ensemble, réunis. Et souvent, nous négligeons en fait ces temps ensemble, où nous passons du temps ensemble dans la présence de Dieu. On se dit qu'on est très bien capable de mener notre foi tout seul, séparé chez nous, en fait. Et ça, c'est faux. À travers la vie de Jésus sur terre, il a pris le temps de rassembler. C'était l'homme du rassemblement. Ça aurait pu être un chef politique assez important aujourd'hui. Hein. Il avait cette manière de pouvoir rassembler les gens. Il savait que c'était important, parce qu'il voulait faire de nous une famille. Une famille n'est pas isolée. Hein. Moi, si je laissais ma fille toute seule, elle n'aurait pas pu s'en sortir. Hein. Mais ensemble, on est un peu plus fort, et ensemble, on apprend. Et ensemble, il y a des choses qui se manifestent. Et le Saint-Esprit s'est manifesté pendant qu'ils étaient tous ensemble. Et le Saint-Esprit a fait de grandes choses à travers l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons voir aussi comment Pierre, qui était un simple pécheur, il a pu parler de manière très convaincante. Et il a toujours atteint son objectif. Et de grandes foules, en fait, se tournèrent vers Dieu. Je voudrais aussi qu'en ce matin, qu'on puisse ensemble voir aussi la puissance de Dieu à travers ce moment que nous allons passer dans la louange et dans l'adoration. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce lieu et ressortir comme nous sommes venus. Dans la présence de Dieu, il y a de la guérison, il y a de la joie, il y a la paix. Alors nous voulons vraiment demander à Dieu de vraiment de nous faire ressentir sa présence. D'ailleurs, il dit, lorsque nous sommes simplement deux ou trois, mais il est au milieu de nous. Alors déjà, nous pouvons faire un bon accueil à notre Seigneur parce que nous sommes bien plus que cela. Merci Seigneur d'être avec nous, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, vraiment de t'établir, Seigneur, parmi nous aujourd'hui, Seigneur. Nous savons déjà que tu règnes dans nos cœurs, mais tous ensemble, nous voulons, Seigneur, te voir. Nous voulons vraiment te sentir ta présence, Seigneur, au sein de ton assemblée, éternel Dieu. Mais nous voulons, Seigneur, ce matin, t'offrir ce qu'il y a de meilleur, notre louange et notre adoration. Tout est pour toi, Seigneur. Seigneur, ne tiens pas compte, Seigneur, de nos manquements, Seigneur. Tu es un Dieu qui pardonne et tu nous as pardonné au travers de Jésus-Christ. S'il te plaît, Seigneur, couvre-nous, Seigneur, de ce sang précieux. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Qu'il ne réside en nous, Seigneur, aucune entrave, Seigneur, qui pourrait empêcher notre adoration de monter vers toi, Seigneur. Que nous puissions vraiment, Seigneur, te louer, Seigneur, avec effusion de cœur, vision de sang, éternel Dieu, que nous puissions, Seigneur, nous sentir libres dans ta présence. Que tu puisses, Seigneur, vraiment agir parmi nous. Ne serait-ce que tu puisses faire simplement passer ton ombre sur nous, éternel Dieu. Comme dans Acte 5, où lorsque Pierre passait simplement, son ombre touchait certains et il pouvait être guéri. Nous te demandons aussi la même chose. Comme cette femme qui souffrait de perte de sang, qui a simplement touché, Seigneur, le bord de ton vêtement, éternel Dieu, a reçu la guérison, Seigneur. Fais de même, Seigneur, dans ton peuple. Nous savons, Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, même ceux, Seigneur, qui ne croient pas en toi, éternel Dieu, même ceux, Seigneur, qui vraiment, Seigneur, sont réticents, Seigneur, simplement, sont rétrogrades, Seigneur, sont convaincus, Seigneur, que tu es vivant. Alors merci, Seigneur, de nous unir. Couvre-nous, Seigneur, et garde-nous durant tout ce culte, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, qu'à travers chaque moment de ce culte, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire, éternel Dieu. Au nom de Jésus. Couvre-moi, Seigneur. Ton souffle planait sur les eaux, au premier jour du monde, comme la puissance est venue sur Marie, plus doux que la colombe, comme tu guérissais tous ceux que touchait l'ombre de Pierre. Saint-Esprit, vois mon désir. Saint-Esprit, vois mon désir. Que
au premier jour du monde, comme la puissance est venue sur Marie, plus doux que la colombe, comme tu guérissais tous ceux que touchait l'ombre de Pierre. Saint-Esprit, vois mon désir. Saint-Esprit, vois mon désir. Viens et couvre-moi, viens et couvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau. Ton ombre soit ma sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi. Ton ombre soit ma sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi.
Nous voulons aussi nous laisser plonger par la puissance du Saint-Esprit dans cette rivière d'adoration. Que tu puisses nous donner vraiment, Seigneur, à pouvoir affectionner aussi l'adoration communautaire, éternel Dieu. Que nous puissions vraiment te voir aussi tel que tu es dans toute ta splendeur, dans tout ton amour, Seigneur. Ô Seigneur, toi seul as le pouvoir, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, rafraîchir, restaurer notre âme. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Plonge-moi, Seigneur. Plonge-moi, Seigneur, dans ta rivière.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit,
plonge-moi,
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Oh, mon âme, mon âme, oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction
qui se produit.
réalise des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence. Se produisent des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes. Nous voulons voir ta magie, Seigneur. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Étends ta main, Seigneur. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence. Des prodiges par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes par le nom de Jésus-Christ, des guérisons et des signes.
Dans Actes 2, verset 4, il est dit « Lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit, chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait à le faire, de le faire. » Que vraiment, vous puissiez vraiment vous exprimer comme le Saint-Esprit vous donne à le faire. Que rien ne soit entravé. Seigneur, nous voulons aussi te louer, Seigneur. Parce que dans cette famille, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur, tu nous as donné des enfants. Merci, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur, que tu as ajoutés, Seigneur, à nos familles, à cette église, Seigneur. Et tu les aimes, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu les aimes. Tu les as cités en exemple, éternel Dieu, parce que tu as dit que le royaume, ton royaume, est pour ceux, Seigneur, qui leur ressemblent. Et c'est pour cela que nous voulons, Seigneur, que nos enfants, Seigneur, puissent grandir, Seigneur, en étant impactés par ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Parce que Seigneur Jésus, tu es la parole et tu donnes aussi la vie. Ta parole donne la vie. Et la vie pour l'éternité. Alors Seigneur, que tu puisses aussi conduire ce temps de culte, Seigneur. Corrompt, Seigneur, les enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur, chacun d'eux. Seigneur, tu veux aussi, Seigneur, qu'ils soient aussi des serviteurs. En cet instant, nous te demandons de faire d'eux des serviteurs. Au nom de Jésus. Nous te prions aussi pour chacune, Seigneur, des monitrices. Ce n'est pas une tâche facile, Seigneur, de pouvoir trouver le langage adapté, Seigneur, pour pouvoir enseigner les enfants, éternel Dieu. Mais tu les as remplis, Seigneur, de divers dons, éternel Dieu, pour qu'elles soient capables, Seigneur, de le faire. Alors merci, Seigneur, de leur donner à faire, Seigneur, cela avec amour. Merci, Seigneur, pour ces monitrices. Merci aussi pour ces enfants. Merci aussi pour ces parents aussi, Seigneur, qui acceptent, Seigneur, que leurs enfants soient instruits dans ta parole. Que tu puisses aussi les bénir richement. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vais laisser les enfants regagner l'école du dimanche. Je vous demande pardon, les enfants, je vous avais oublié. Quant à nous, nous voulons continuer à faire monter notre adoration et notre louange à le Seigneur. Pour que le Saint-Esprit puisse régner en nous, pour que Jésus puisse régner en nous, il faut vraiment que nous puissions l'avoir déjà accepté aussi et lui laisser la place. Jésus, c'est un gentleman, en fait. Hein. C'est la personne qui ne va pas s'inviter si vous ne l'invitez pas non plus. Il ne va pas s'imposer à vous. Il ne s'imposait à personne, d'ailleurs. Et quand il n'était pas accepté en quelque part, eh ben, il s'en allait. Hein. Donc, mais nous avons goûté à la présence de Dieu. Et je vous avoue que... Moi, j'ai envie de l'inviter chez moi et de le garder. Ça, c'est un très bon invité. Alors, moi, je voudrais lui dire, Seigneur, vraiment, règne en moi. Règne puissamment en moi. Et si il y a des choses en moi, Seigneur, qui t'empêchent, Seigneur, de pouvoir t'asseoir parce que tu es le Dieu saint, ben, que tu puisses... maîtriser et faire disparaître toutes ces choses. Parce que je suis conscient que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas régner, Seigneur, là où il y a le péché. Alors débarrasse-nous, Seigneur, du péché. Débarrasse-moi du péché, Seigneur, qui entoure ma vie. Que je sois vraiment libre en toi. Que ma vie te glorifie, Seigneur.
Règne en moi, roi puissant, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi,
dis-le encore, règne en moi.
Mon cœur, viens régner, Seigneur, viens. soit faite à jamais, soit faite à jamais. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur, viens régner, Seigneur. Et que ta volonté, soit faite à jamais, soit faite à jamais. Je veux que tu règnes en moi, règne en moi, règne en moi, règne en moi, oh règne en moi, règne en moi, règne en moi, roi puissant, règne en moi, oh règne en moi. Viens régner, Seigneur, et que ta volonté soit faite à jamais. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur, et que ta volonté, et que ta volonté soit faite à jamais, soit faite à jamais. Maîtrise mon cœur, maîtrise mon cœur. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Ta volonté soit faite à jamais. Il faut que tu règnes en moi, règne en moi, règne en moi, règne en moi, oh règne en moi. Règne en moi.
Amen. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici.
ton esprit, nous verrons ta grandeur, nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur, nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander, alors nous voici. Souffle sur nous avec ton esprit. Souffle sur nous, souffle sur nous avec ton esprit. Nous t'accueillons, Esprit de Dieu, avec ton esprit. Avec ton esprit.
Seigneur, plus de toi, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, encore plus de ta présence, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, nous puissions, Seigneur, ensemble, Seigneur, constamment, Seigneur, te rechercher. Et dans notre vie aussi personnelle, Seigneur, en dehors de l'Église, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avoir soif de toi. David disait, ne me retire pas ton Esprit Saint. David avait compris qu'il avait besoin de la présence de Dieu dans sa vie pour continuer son chemin. Nous aussi, que nous puissions avoir soif de sa puissance, de sa présence dans nos vies.
Jésus, encore plus de toi, de ta onction et de ta compassion.
Oh Jésus,
nous voulons plus de toi, Jésus, de ta présence. Oh. Jésus, encore plus de toi, de ton onction et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi, de ta puissance et de ta présence. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi.
Ensemble, Jésus.
Jésus, encore plus de toi, de ton onction et de ta compassion. Jésus, encore plus de toi, de ta puissance et de ta présence. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi. Je désire faire la différence dans ce monde sans espérance. Jésus, encore plus de toi.
Seigneur, c'est ma prière et c'est notre prière, Seigneur, en ce matin, Seigneur. Que nous puissions faire la différence, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, qui se meurt sans toi, Seigneur, qui est en mal d'espérance éternelle, Dieu. Qu'à travers notre vie, Seigneur, consacrée à toi, éternelle, Dieu, qui puisse retrouver l'espoir, éternelle, Dieu, et qui puisse vouloir aussi s'approcher de toi, Seigneur, et que leur chemin puisse se confondre, Seigneur, au tien. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et quand tu donnes la vie, Seigneur, tu donnes la vie en abondance, Seigneur. Alors, Seigneur, manifeste-toi encore en nous et dans ce monde, Seigneur, car il a besoin de toi, Seigneur. Et quant à nous, donne-nous, Seigneur, à ne point, Seigneur, taire notre adoration, ne point taire notre louange pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui sont debout.
Bonjour bien-aimés, Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce temps agréable dans sa présence. Agréable parce que nous sommes plongés dans l'adoration de notre Dieu, n'est-ce pas? Et que nous ouvrons notre cœur. Ce dimanche de la Pentecôte, c'est une célébration chrétienne, mais elle est bien plus ancienne que la fête chrétienne. Elle était déjà une célébration dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël fêtait cette fête qui s'appelait la fête de la moisson, pour rendre grâce à Dieu 50 jours après. Pour rendre grâce à Dieu 50 jours après la Pâque, pour rendre grâce à Dieu des prémices de la moisson. Et Dieu a choisi ce temps spécial en Israël, cette reconnaissance pour la moisson, pour faire descendre son esprit. Pourquoi? Nous le verrons dans le texte tout à l'heure. Mais bien avant cela, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, Jésus, avant l'ascension dont nous avons parlé dimanche dernier, a laissé ce message aux disciples, aux 12 bien sûr, mais après à tout le monde. Il a dit de rester à Jérusalem et il a dit, restez ici jusqu'à ce que la puissance, l'Esprit de Dieu vous couvre de sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et aux extrémités, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Et nous prenons quelquefois certains de nos cultes comme un temps aussi où on peut témoigner, où certains d'entre nous peuvent témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ce matin, avant d'aller plus loin dans cette prédication, j'aimerais inviter Eric Zali qui va partager ce que Dieu a fait dans sa vie.
Bonjour à tous. Je vais juste vous rendre mon témoignage en espérant ne rien oublier d'essentiel. Donc voilà, donc je suis né dans une famille de 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Je suis le dernier. Donc ma mère, elle nous a toujours enseigné dans la parole de Dieu. Donc elle s'est toujours arrangée, gloire à Dieu, à ce que nous connaissions la parole de Dieu, que nous, soit nous ayons des chants avec les disques, ou soit en fait, pour ceux qui ont connu, il y avait une brochure qui s'appelait Tournesol. Et en fait, cette brochure, il fallait lire plusieurs textes et il fallait répondre. Il y avait des questions, il y avait des réponses à donner par rapport au texte de compréhension. Et il fallait répondre et les envoyer. Donc là, il y avait une motivation quand même qu'il fallait qu'on lise, qu'on réponde. Et à l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de mail. Donc il fallait écrire et faire son courrier et envoyer. Donc cela montrait une motivation. Et ça, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs textes comme cela, d'apprendre pas mal de choses. Et même aussi, à certaines époques, de lire la Bible en un an, pour ceux qui connaissent. Jusqu'à présent, je continue à le faire. Donc ça m'a permis de connaître quand même pas mal de textes, mais sans vraiment prendre position. À 8 ans, j'ai mon père qui est mort. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais en revoyant le témoignage, je me suis rendu compte que peut-être que ça m'avait affecté. Aussi bien scolaire et autres, ça m'avait affecté. Ma mère s'est remariée plus tard, donc je suis avec mon beau-père. C'était pas forcément facile. Donc plus tard, je suis arrivé ici, en 89. Et en fait, j'ai continué. J'ai continué à suivre, mais sans vraiment me positionner. Donc je savais que ce qui était la parole de Dieu, et je continue à suivre. Donc je n'ai pas voulu accepter parce que ma mère m'avait enseigné l'évangile. J'ai voulu faire mes recherches par moi-même. J'ai voulu comprendre par moi-même ce qu'il en était, qui était Dieu, pardon, et ce qu'il attendait de nous. Et j'ai juste regardé, mais sans m'intéresser de plus, sans les nommer, donc à une doctrine où c'est la philosophie, où il faut réfléchir, il faut méditer. Je me suis dit, c'est pas accessible forcément à tous, et ce que Dieu veut, c'est que nous le connaissions, nous. Cette doctrine demande de faire le vide en soi, et c'est pas ce que la Bible nous demande. Par ailleurs, il y a une autre doctrine qui est arrivée 700 ans plus tard que l'évangile ait été donné, et en fait, en lisant, on voyait que c'était pas du tout la vérité. Mais Dieu merci, le fait d'avoir lu la parole de Dieu, le fait d'avoir connu la parole de Dieu, ça m'a permis de me positionner, de savoir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Donc j'ai continué à chercher et j'ai demandé à Dieu, Dieu, révèle-moi qui tu es vraiment. Et à ce moment-là, en arrivant, enfin j'étais toujours déjà ici à l'église de Créteil, c'était un dimanche matin, le pasteur de l'époque, Pedro, il a cité un verset que nous allons lire, c'est 2 Timothée 3, versets 14 à 17, où il est dit ceci. toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cette parole, quand je l'ai entendue, en fait, je suis arrivé ce dimanche matin, j'étais présent physiquement, mais je n'étais pas là. Et quand il a cité le verset, je me dis ça, franchement, c'était pour moi. J'ai prié et Dieu m'a interpellé à travers ce verset. Donc j'ai continué à suivre jusqu'au jour où en fait il y avait une évangélisation sur Paris. C'était le pasteur Alain Choiquier, pour ceux qui connaissent. Et c'est là où j'ai vraiment accepté Dieu. Et avant cela, on peut se dire que déjà j'avais des excuses pour ne pas accepter. Je me disais, lorsque je serai devant Dieu, je dirai à Dieu, Dieu, j'ai pas choisi d'être sur terre, je suis venu, donc voilà, je vis ma vie. Mais on se dit que nous sommes créatures et Dieu est créateur. Mais on sait, qu'on le veuille ou non, on sait qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. On sait que Dieu existe. Et on sait que, quel que soit ce qu'on dira, il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même. Beaucoup de personnes savent qui est Dieu. Beaucoup de personnes savent ce que Dieu attend d'elles. Beaucoup de personnes savent qu'il n'y a pas trois chemins, il n'y en a que deux. Et que forcément, on est dans l'un ou dans l'autre. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas. Soit on va pour la vie éternelle, soit on va à la perdition. Il y a un choix à faire. Moi, j'ai fait mon choix. Donc, j'ai continué à suivre, j'ai accepté Christ. Lorsqu'on accepte Christ, c'est une belle chose. Je peux vous garantir que c'est une belle chose. Lorsqu'on accepte Christ, plus tard, je me suis fait baptiser à l'église d'Orly. Et à cette période-là, on est soit très bouillonnant pour Dieu, il y a une période où il y a un flou, où le diable nous attaque. Mais il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir dire, comme Jésus a répondu à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si on n'a pas cette connaissance, on peut très bien se rapprocher de quelqu'un plus avancé que nous dans la foi, plus expérimenté, afin qu'on puisse lui exposer nos doutes, nos questions, nos interrogations, qu'il puisse nous répondre. Donc, c'est ce que j'ai fait, et j'ai continué à suivre la parole de Dieu. Et jusqu'à présent, j'ai jamais regretté. La vie chrétienne, elle n'est pas facile. Certaines doctrines vous diront que quand tu connais Dieu, tout doit être bien, tout doit être beau, tout doit être rose. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La vie chrétienne, elle n'est pas forcément facile tous les jours, mais nous savons que Dieu est avec nous, et que Dieu, il est présent, il nous aide. Il est celui qui nous fortifie. Quand il y a un manque, quand il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu est toujours là. Même si nous sentons des fois, selon nous, qu'il n'est pas là, c'est Dieu qui nous porte. Et en fait, j'ai accepté Christ et je ne le regrette pas jusqu'à présent. Et pour cela, gloire à Dieu. Dieu merci. Amen.
Merci Seigneur pour la vie d'Éric. C'est encourageant de voir comment Dieu continue de travailler dans la vie des hommes et des femmes. Nous avons des parcours différents, nous avons des histoires de vie différentes, mais dans toutes ces histoires, Dieu nous rencontre à un moment donné. Il nous rencontre à un moment donné. Il y a toujours ce moment où il est là, où il se présente à nous, au travers d'une circonstance de la vie, au travers d'une difficulté, au travers d'un moment heureux. Parce que Dieu, il nous cherche, n'est-ce pas ? Dieu, il nous cherche. Il cherche chacun d'entre nous. Il est toujours comme dans la parabole du fils prodigue, ce père qui est toujours là, qui cherche et qui attend ses enfants qui reviennent à lui. Mais il ne reste pas passif. Il est dans l'action au travers de tous les signaux qu'il peut envoyer. Et on bénit Dieu pour la vie d'Éric. Né dans une famille chrétienne, enseigné dans la foi, il a eu des valeurs qui certes l'ont construit. Mais il y a eu ce temps où il a dû rencontrer Dieu, où la parole a eu sens dans son cœur. Et ce texte de ce matin, de la Pentecôte, va nous remettre peut-être aussi dans une force comme celle-là. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Et puis là, le verset cite toutes les langues qu'on pouvait avoir ce jour devant ce parterre de personnes. Et le verset 12 finit en disant, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Et le verset 13 dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure de la journée. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes faisantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et quand on va plus loin, verset 21, il est dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand on descend encore plus bas au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Verset 37, un peu plus bas encore. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Voilà ce qui s'est passé il y a près de 2000 ans. Une œuvre de Dieu puissante. Ce Dieu qui jusque-là, certains croyaient qu'il s'était tu. Et quand même Jésus parlait, beaucoup ont mis en doute la parole de Jésus au point de le livrer à la croix en le traitant de blasphémateur, de menteur, d'usurpateur. La résurrection du Christ a porté un coup à cette conception. Là, il y a eu un questionnement pour tous ceux qui avaient été témoins de sa mort. Il était maintenant ressuscité, lui qui avait été cloué à la croix. Et les apôtres l'avaient vu élevé au ciel lors de l'ascension, retourné auprès du Père. Et il leur avait dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que celui que je vous ai promis vienne, l'Esprit de Dieu. Quand il viendra, vous serez fortifiés dans le témoignage que vous pouviez rendre de moi. Et c'est ce qui s'est passé. Ce jour, alors que ces 120 personnes étaient dans cette chambre qu'on appelle la chambre haute, en prière, il y a cet événement extraordinaire qu'ils décrivent, eux, avec les mots humains qu'ils ont pu nous laisser. Ils ont vu quelque chose, ils ont vécu quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui a bouleversé leur vie. Et dans cette expérience spirituelle, ils parlaient des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Des langues des personnes qui étaient ce jour-là à Jérusalem. Et le texte dit que chacune des personnes qui étaient là entendait distinctement parler de la gloire de Dieu dans leur langue maternelle. Pourquoi Dieu fait ça ce jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? La Pentecôte, c'est le jour de la moisson où on remercie Dieu parce qu'il a été généreux et qu'il nous a donné une récolte abondante. Et Dieu se saisit de ce symbole pour récolter les âmes. Il moissonne ce jour-là. Tous ceux qui étaient là ce jour à Jérusalem, qui étaient des nations différentes, comme dit le texte, c'était un bon moment pour moissonner, pour commencer cette grande moisson, n'est-ce pas? Parce que c'était le commencement d'une moisson qui, du reste, continue jusqu'à aujourd'hui. Et le témoignage d'Éric nous rappelle que Dieu continue son œuvre dans nos vies, n'est-ce pas? Il continue de moissonner, d'appeler des hommes et des femmes à lui, de les tirer du chemin de la perdition pour les remettre sur le chemin de la vérité. L'Esprit de Dieu est donc venu. L'Esprit de Dieu est présent. Il faut savoir que quand nous lisons les textes anciens, cette troisième personne de la Trinité, car nous croyons que Dieu est unique, il est Père, Fils et Saint-Esprit, et que dans chaque action de Dieu au travers de notre humanité, c'est l'une des personnes qui se manifeste au nom de la Sainte Trinité, n'est-ce pas? Et Jésus est celui qui vient pour nous donner la vie, pour sauver, et c'est l'Esprit qui l'envoie derrière. Il dit, il est avantageux pour vous que je parte, afin que le Consolateur, le Paraclet, vienne. Quand il sera venu, bah, il fera des choses. Et on voit que déjà, à la création, quand vous lisez Genèse 1, l'Esprit de Dieu est présent, n'est-ce pas? Premier verset, à partir du verset 1 et 2, on dit, l'Esprit de Dieu planait sur cette forme encore sans forme. Et c'est à partir de là que Dieu crée. Quand on lit tout au fil de l'Ancien Testament, Juges, Samuel, on voit que l'Esprit de Dieu à chaque fois est cette personne de la Trinité qui se met en action dans les vies des hommes et des femmes pour les rendre aptes à servir Dieu. Pour les rendre aptes à servir Dieu. Et Jésus lui-même, Fils de Dieu, a été aussi en harmonie avec l'Esprit, n'est-ce pas? Le prophète Joël, que Pierre cite dans ce texte de Actes, avait prophétisé bien longtemps avant que cette chose ne se manifeste. Et l'apôtre Pierre dit que ce qui est vécu ce jour de la Pentecôte est l'accomplissement de la prophétie que Joël avait donnée bien longtemps avant. Au moins 3 ou 4 siècles avant. Joël chapitre 3, versets 1 à 6. Parfois ça dépend des versions. Dans d'autres versions, c'est plutôt le chapitre 2, versets 28 à 32. Et il est écrit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est quoi la prophétie? Parfois, on résume la prophétie à un moment d'extase où les gens rentrent dans une phase un peu inconsciente, où ils balbutient. Oui, il y a cet aspect-là aussi qu'on trouve dans les textes anciens. Mais l'aspect le plus normatif, c'est pas cela. C'est quand Dieu convainc une personne que sa parole est la vérité et que cette personne est témoin de cette parole et qu'elle transmet cette parole et qu'elle redit cette parole et qu'elle annonce cette parole. Le prophète ou la prophétesse, c'est celui qui est porte-parole de Dieu, celui qui parle pour Dieu, celui qui est convaincu de ce que Dieu a fait de sa vie et qui en témoigne. En ce sens, cette prophétie s'est accomplie. Tous les chrétiens désormais sont prophètes et prophétesses, car nous sommes tous témoins de ce que Dieu a fait dans nos vies, de ce que Dieu a fait de nos vies. Et nous sommes capables de le dire, de l'annoncer, de le proclamer avec joie. Voilà le prophète, voilà la prophétesse. Et Joël dit que les jours derniers, c'est ce que Dieu fera. Et Pierre dit, c'est ce qui s'est manifesté il y a 2000 ans. Désormais, tous ceux que Dieu rencontre et qui ouvrent le cœur, et qui le reçoivent, bah, ils deviennent porte-parole de Dieu. Il dit, car nous sommes, et ça c'est l'autre apôtre qui dit, il dit, nous sommes des vases. Et dans ces vases, il y a quoi? Il y a un trésor. Il dit, ce trésor, c'est quoi? C'est la parole du Christ. Nous sommes des vases dans lesquels il y a un trésor. Et ce trésor, c'est la parole du Christ. Ta vie est un trésor. En tout cas, si tu l'as ouvert ton cœur et que tu as accepté Christ, il a fait de toi un trésor parce qu'il a déposé en toi un trésor inestimable. Parce que la Bible dit que notre salut a coûté le prix de qui ? Du Fils de Dieu. C'est un prix inestimable. Nous avons été rachetés à un prix qu'on ne peut pas comptabiliser. Il n'y a pas assez de zéros pour dire combien notre vie a coûté à Dieu et combien nous valons aujourd'hui. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu venait ponctuellement. Il faisait une action ponctuelle. Elle n'était pas permanente, cette action. Et l'apôtre Pierre, dans la Pentecôte, il dit, ce que Jésus a dit, c'est que finalement, dans les derniers temps, l'Esprit aura une demeure perpétuelle jusqu'à la deuxième venue du Christ. Il demeurera, il sera disponible et disposé dans ton quotidien, dans mon quotidien. Nous aurons cet accès libre à lui désormais. L'accès est ouvert à l'Esprit de Dieu. Et Ézéchiel l'avait déjà prophétisé aussi. Ézéchiel, le chapitre 36, partie du verset 26, il est dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Ézéchiel 36, versets 26 à 28. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait. Il transforme ton cœur de pierre. Il transforme mon cœur de pierre en cœur de chair. C'est quoi un cœur de pierre? C'est un cœur qui ne peut pas recevoir la parole de Dieu. L'image qui me vient, c'est l'image d'un caillou assez aride et d'une éponge. Si vous versez de l'eau sur un caillou, l'eau ruisselle. Il en reste très peu, même sur le caillou. Si vous versez de l'eau sur une éponge, l'eau s'infiltre dans l'éponge. Et il dit, c'est ce que je veux faire de vous. Je ferai de vous un cœur qui soit capable désormais de laisser pénétrer la parole de Dieu. Un cœur qui soit capable de recevoir cette parole, mais de la laisser pénétrer au plus profond. Parce que jusqu'avant, vous aviez un cœur trop dur, qui même quand elle recevait cette parole, n'était pas capable de la laisser pénétrer. Est-ce que ton cœur laisse pénétrer la parole de Dieu? Examine-toi ce matin. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un début de transformation. C'est que cette prophétie a commencé à s'accomplir dans ta vie. Dieu a commencé à changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que ton cœur est encore un cœur de pierre. Et que la Pentecôte est là pour te dire, bah, c'est un jour nouveau pour toi. Dieu veut accomplir pour toi aussi cette prophétie. Elle est pour toi. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Il a dit, homme juif, cette parole est pour vous, pour vos enfants, mais pour tous ceux qui sont au loin, à perpétuité. Elle est pour toi aussi. Elle est pour moi aussi, n'est-ce pas? Jean, le chapitre 14, Jésus parlant justement de l'après lui, à partir du verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il parle du Saint-Esprit. Je prierai le Père pour qu'il envoie l'Esprit et que l'Esprit demeure éternellement avec vous. Jean 14, 16. Jean 14, 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Cet Esprit, le monde ne peut pas le recevoir. Quand nous étions aussi de l'autre côté, nous ne pouvions pas le recevoir parce que nous n'étions pas disposés, nous n'étions pas disponibles et nos cœurs étaient de cœur de pierre. parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Quand Dieu se reconnecte à nous et que nous laissons libre accès à Dieu, alors oui, l'Esprit de Dieu vit en nous. Est-ce que nous imaginons le privilège qu'est le nôtre, tout le potentiel que Dieu a mis à notre disposition pour transformer des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, transformer profondément notre vision du monde, nos caractères, nos comportements, nos paroles, pour faire de nous des gens de bien. On ne fait plus la démonstration que notre société a besoin de gens de bien. Ça serait vraiment une démonstration, comme on dit, ça serait une lapalissade, ça serait une démonstration tellement évidente. On voit tous les jours que notre monde est meurtri par tant de mots, M-A-U-X, que ce soit dans des couples, que ce soit dans des familles, que ce soit dans des fratries, que ce soit dans des sociétés, que ce soit dans des villages, que ce soit dans des villes. Il y a tellement de choses dures, tellement de choses difficiles, tellement de choses atroces. J'arracherai vos cœurs de pierre et je mettrai en vous des cœurs de chair. Je vous donnerai mon propre esprit. Toujours dans Jean chapitre 14, verset 18, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. En cette commémoration de la Pentecôte, frères, sœurs, Dieu a fait le plus dur. Dieu a fait le plus dur. La Trinité s'est départie d'une de ces personnes qui est morte à la croix. Pour toi et pour moi. Parce que nos vies étaient des vies qui valaient la mort. Mais Dieu n'est pas un Dieu de la mort. Dieu est un Dieu de la vie. Il dit, voici deux chemins que je mets devant toi. La vie, mais aussi la mort. Mais ce que j'ai désiré le plus profond pour toi, c'est la vie. Malheureusement, il y a eu le péché en Éden qui a introduit la mort. Dieu est le Dieu des vivants. Il est le Dieu de la vie. Ce qu'il souhaite, c'est que tu choisisses la vie. Et pour te donner toute les capacités pour que la vie soit en abondance en toi, en moi, il a disposé l'Esprit de Dieu pour cela. C'est le sens de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est disposé et disponible pour que la vie que Jésus nous a promis soit une vie abondante. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que je veux faire de cette vie que Dieu met à ma disposition? C'est ça la question finalement. C'est là l'évaluation que lorsque nous sommes chrétiens et que année après année nous fêtons la Pentecôte, la petite évaluation que nous pouvons faire c'est qu'est-ce que je fais finalement de ce trésor? Qu'est-ce que je fais finalement de toute cette capacité que Dieu a pris tant de temps à mettre à ma disposition? qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Dit le test. Il dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui ? À peine son souffle est comme la fleur qui au matin a éclos, mais qui au soir s'est fanée. Autant la fleur a jailli, elle était belle, et quand elle fane, personne ne se souvient qu'elle était là. Il dit, ici sont nos vies sont comme des virgules. Et pourtant, Dieu, tu t'en souviens. Et pourtant, tu prends soin d'elles. Et pourtant, tu t'intéresses à nos filles. Que tu es grand, éternel. Tu nous connais chacun par nos noms. Et tu connais le nom de chacun de nos brins de cheveux sur notre tête. Que fais-tu, mon frère? Que fais-tu, ma sœur? Essayons juste de nous dire, waouh, c'est impressionnant, ce Dieu, grand, puissant, créateur de tout, me connaît. Il s'est révélé à moi, et je sais qu'il s'est révélé à moi. Et Eric a témoigné comment Dieu s'est révélé à lui. Mais depuis lors, qu'est-ce que je fais de ce trésor? Qu'est-ce que je fais de ce trésor? Qu'est-ce que je fais de ce trésor? Deux pistes pour que ton évaluation soit concrète. Il dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 17, « Il vous est impossible de faire le bien que vous voudrez si vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit de Dieu. » Il dit Galates, qu'est-ce qui se passe? Donc il parle aux chrétiens de Galates. La Galatie, ce n'était pas une ville, c'était une région. Donc il parle à plusieurs églises qui du reste sont adressées aussi à nous. Parce que c'est des lettres, c'est des épîtres que Dieu donne, certes dans un temps précis de l'histoire de notre humanité, mais qui sont ouvertes à toutes les générations jusqu'au retour de Jésus. À un moment donné, il a des nouvelles de l'épître des églises de Galatie et les frères et les sœurs de ces églises ont arrêté de marcher comme le Seigneur le voulait. Et il dit, Galates, oh Galates, vous couriez si bien, vous marchez si bien, qui vous a stoppé dans votre marche? Qui vous a stoppé dans votre marche? Qui vous a stoppé dans votre marche? Vous avez recommencé à marcher par la chair, alors que l'Esprit de Dieu est disponible pour vous. Il dit, sachez une chose, si vous continuez comme ça, vous n'allez pas arriver à accomplir ce que Dieu souhaite pour vous, cette vie d'abondance. Vous allez vous faire du mal, à vous-même d'abord et à ceux que vous aimez par la suite. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et la chair, les désirs de la chair conduisent tous à la mort. Dispute, discorde, palabre, ivrognerie, jalousie, sexualité débridée, ivrognerie. Et dites ces choses semblables qui ne font que nuire au corps, à ta propre vie, mais qui nuisent aussi à tes relations. Voilà ce que c'est que la chair nous conduit. On peut s'en convaincre simplement en regardant notre humanité. On dit que la richesse de notre humanité est tenue par moins de 10% de la population. Et les 90% qui restent souffrent. Et les statistiques d'ici, les 10% étaient capables de repartir leur richesse sur les 90, il n'y aurait plus de pauvres, il n'y aurait plus de famine, il n'y aurait plus de... Mais pourtant, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que nous sommes conduits par la chair, parce qu'on ne connaît pas Dieu. C'est ça la vérité. Donc, il dit, l'Esprit de Dieu est disponible. Et voici les fruits de l'Esprit. Chapitre 5, 22, 25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. C'est une évidence. C'est l'Esprit qui nous a donné de nous reconnecter à Dieu. Et nous ne voulons pas marcher par cet Esprit qui nous a donné de nous reconnecter à Dieu. Il dit, il y a une logique là qui n'est pas saine. Si tu dis que Jésus est celui qui te fait du bien et qui t'a remontré la vraie vie, pourquoi n'acceptes-tu pas de te laisser guider par l'Esprit de Dieu? Pourquoi ne le laisses-tu pas t'encourager à être cette femme de bien, à être cet homme de bien. Parce que lui, il est capable de le faire. Nous, on le fait un peu, on le fait moins, on le fait un peu, on le fait moins, on le fait bien, on le fait moins bien, et on est en dents de scie. Parfois, les dents de scie sont très... Parfois, ils sont tout petits. Mais lui, il est là pour nous donner une constance. Il veut nous aider à progresser. Il est disposé. Trop souvent, on a mis l'Esprit de Dieu avec que des actions de puissance, des démonstrations de puissance. Oui, il fait aussi ça. Mais ce que l'Esprit de Dieu aime faire quand on lit la parole de Dieu, c'est de transformer des caractères. C'est de transformer des comportements. C'est de changer des vies. C'est ça qu'il aime faire. C'est ça qu'il aime faire. Il dit, pour cela, n'oubliez pas que nous sommes aussi dans un combat spirituel. Et là, on est à Éphésiens chapitre 6. Il dit, dans ce combat spirituel, l'Esprit de Dieu vous a aussi donné des choses pour que justement dans ce combat, vous n'ayez pas peur et que vous ayez la victoire. Éphésiens 6, 10 à 19. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. L'Esprit de Dieu veut t'aider à marcher dans la vérité. Constamment, régulièrement. C'est lui qui veut t'aider. Parce que Jésus dit quoi? Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira. Donc la vérité dans laquelle il veut te conduire, c'est d'abord la vérité de la parole de Dieu. Te conduire dans la parole. Mais ensuite, que tu sois une femme, un homme de vérité. Imaginez tous les dégâts des mensonges dans un couple. Imaginez tous les dégâts des mensonges dans une relation parent-enfant. Imaginez tous les dégâts du mensonge dans des relations amicales. Mais imaginez tout le bienfait de la vérité dans une relation de couple. Tous les bienfaits de la vérité dans une relation parent-enfant. Tous les bienfaits de la vérité dans une relation fraternelle, amicale. Revêtez la cuirasse de la justice. Cette cuirasse de la justice, c'est d'abord d'être vêtu de cette justice que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Quelle grâce! Si on voulait comptabiliser nos œuvres de bien, nos œuvres de mal dans une balance, le mal pèserait plus que le bien et aucun de nous ne serait sauvé. Mais c'est Jésus qui pèse dans la balance et qui nous accorde sa justice, et du coup nous sommes sauvés par la justice de Christ. C'est ça, se revêtir de cette justice de Christ. C'est Christ qui me fait cette grâce d'être trouvé saint devant Dieu, et c'est mon billet d'entrée au paradis. C'est Jésus. Et s'il a été ce billet d'entrée, alors il m'invite à être une femme, un homme de justice moi aussi par la suite. Je dois aimer les choses qui sont justes, les choses justes. Il veut me transformer pour que je sois une femme, un homme juste. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions de la bonne nouvelle de l'évangile. Le symbole ici, il est fort. Qui de nous aujourd'hui sort sans chaussures? J'en vois pas là, ce matin. Parce que nous avons besoin de protéger notre pied, mais d'être aussi bien contre tout ce qui peut nous, éventuellement, les maladies et tout cela. Et l'idée ici, c'est chaque jour, vu que chaque jour nous sortons avec des chaussures, mais si on prend l'image du soldat, vu que le soldat ne pouvait pas aller en guerre sans, à l'époque c'était des brolequins ou des bottines, pour pouvoir traverser tous les marécages, toutes les contrées, tous les endroits divers et variés, sans se soucier de ses pieds, nous avons besoin d'être construits jour après jour dans la parole de Dieu, pour que quels que soient les événements, les situations, les époques de la vie, nous soyons bien chaussés, chaussés de la parole de Dieu. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le bouclier, hein? L'image célèbre du bouclier pour les générations les plus jeunes, c'est Capitaine America. Ce super-héros qui ne se sépare jamais de son bouclier. Et son bouclier le protège contre tout. Et l'image ici, c'est ça. C'est ta foi qui est ton bouclier. Pour que ta foi soit ton bouclier, il faut que ce soit une foi authentique, n'est-ce pas? Une foi authentique. La foi, c'est quoi? C'est la confiance en Jésus-Christ. Il faut que ta foi soit une confiance totale en Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Ta parole est la vérité. Je veux me laisser guider par elle. Je te fais confiance. Cette foi, cette confiance, elle n'est pas tout de suite pleine. Pour certains, ça vient, waouh, ça vient comme un débordement. Pour d'autres, ça prend du temps, peu importe. L'idée, c'est que Dieu avance avec chacun de nous, au rythme de chacun de nous, parce qu'il nous connaît, chacun, autant que nous sommes. Il dit, selon la mesure de foi de chacun, Dieu avance. Ce que Dieu veut simplement, c'est que tu avances. Si ta foi n'est pas comme la mienne, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu avances avec ce que tu as? Est-ce que tu avances avec ce que tu as? C'est ça que Dieu veut. Et c'est là qu'il veut t'encourager à avancer, à avancer. Pas plus lentement, pas plus vite, mais au rythme que Dieu sait que tu peux tenir. L'image, c'est comme une image de course de fond que l'apôtre Paul parle régulièrement. Une course de fond, moi je n'ai jamais fait, mais tous ceux qui le font, ils savent que ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Si tu prends un 100 mètres plat dès le départ, il faut que tu tiennes le rythme pour qu'au bout tu arrives. Les plus aguerris, ils commencent tout doucement parce qu'ils savent que ça va être long. Que ce qui compte, c'est l'endurance, des pas réguliers jusqu'à ce qu'on arrive. Et l'apôtre Paul compare beaucoup notre course de foi comme une course de fond, pas comme une course de vitesse. Ce n'est pas une compétition de vitesse. Ce qui importe, c'est que chacun arrive. C'est que chacun arrive. Amen. Le casque du salut. As-tu ton casque du salut? Es-tu sauvé? Peux-tu dire oui, je suis sauvé? Pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce que Jésus-Christ a payé le prix pour moi et que mon cœur l'a accueilli. Parce que je sais que Christ, par son esprit, a changé mon cœur de pierre en cœur de chair. Je sais, parce que je vois qu'il y a un avant et un après, même si j'ai encore du chemin à faire. Et maintenant, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Quel est ton rapport avec cette parole? La Bible la présente comme l'arme avec laquelle tu peux te défendre. C'est elle avec qui, comme l'a dit Eric dans son témoignage, Jésus, tenté par le diable, il a toujours dit, il est aussi écrit. Toujours la référence à la parole. Frères et sœurs, c'est là que s'achève notre encouragement de ce matin. La Bible est la parole de Dieu. À la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu, il est disponible, il est disposé. Et cette parole est un trésor. C'est le trésor de la vie. C'est elle qui montre le chemin, c'est elle qui donne le chemin, parce que Jésus nous l'a laissé. Il se révèle au travers de la parole. Quel est ton rapport à la parole de Dieu? Est-ce que tu la gardes jalousement pour la pratiquer, pour la vivre? Moi, je prie pour cela, dans ta vie et dans ma vie. Prions Dieu. Te bénissons, Seigneur. Te célébrons, notre Dieu. Te rendons gloire. Merci pour toutes choses. Que cette parole puisse être utile à chacun et à chacune. En Jésus-Christ.